Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Éric Laurent. Il est président de Renaissance Côte d'Armor. Il est venu de Lannion spécialement pour être en direct avec nous ici dans le studio de la matinale à Saint-Brieuc. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors, on va parler de politique. Ça ne vous aura pas échappé.
Je suis pas surpris, non.
Si je vous dis que ça a beaucoup tangué ces dernières semaines, que nous avons eu un Premier ministre qui a démissionné, puis qui finalement est revenu et qui est à nouveau Premier ministre et qui va présenter cet après-midi à 15h son discours de politique.
Il va présenter le projet de loi de finances 2026 et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et oui, effectivement, il le présente ce matin et cet après-midi, il fera le discours de politique générale. On est d'accord.
Voilà, on est d'accord.
L'ordre, c'est ça.
C'était bien de remettre le tout dans l'ordre. Éric Laurent, quand je vous disais que ça avait beaucoup tangué, est-ce que c'est la fin du macronisme? Voilà, je me fais un peu provocant ce matin.
Non, c'est pas de la provocation. Moi, j'ai tendance à répondre non. Tout nous montre aujourd'hui, avec la fracturation qu'il y a à l'Assemblée nationale, il y a trois pôles. Il y a un pôle d'extrême-gauche, LFI, on peut y mettre aussi les écologistes, parce que la position d'Europe Écologie Les Verts est souvent calée sur celle de LFI. Vous avez le Rassemblement National et ses alliés d'Éric Ciotti. Et puis au milieu de ça, il y a le Parti Renaissance, Horizon, le Modem, les Républicains, le Parti Socialiste, je mettrai aussi le Parti Communiste, qui sont des partis... qui ont été au gouvernement, qui sont des partis de gouvernement, par contre, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelques objectifs communs, de manière à débloquer la situation. Mais moi, je dis, c'est pas la mort du macronisme. Au contraire, on voit bien que le pilotage de la France, la gouvernance, elle se situe plutôt centre-droit, centre-gauche, et que pour l'instant, même si certains sondages expriment que l'extrême droite fait une montée, pour moi, le macronisme a encore de belles heures devant lui. C'est le en même temps, c'est la gauche, la droite, centre-gauche, centre-droite, le centre. Parce qu'une mesure de gauche ou une mesure de droite, comment on décrète que la mesure, elle est de gauche ou de droite? Si on dit que le travail doit payer plus, c'est de gauche ou c'est de droite, ça? Non, c'est pour le portefeuille de nos concitoyens.
Avec on va dire une colère, une lassitude des Français qui voudraient bien que les choses avancent. Et puis, ce budget qu'il va falloir, bon an, mal an, quand même voter avant le 31 décembre, avec les fameux 70 jours d'examen par les parlementaires. Oui. Y a une forme d'urgence, là.
Il y a une très grande urgence. Et moi, je dis que nous sommes le parti de la responsabilité avec nos partenaires. Et qu'en face de nous, il y a les partis du chaos. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui LFI du Rassemblement National? Le budget, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire tomber le gouvernement, d'avoir une dissolution de l'Assemblée nationale pour le Rassemblement National notamment, et d'avoir une démission du président de la République, ou alors une destitution, comme LFI l'a porté déjà deux ou trois fois, ce qui est impossible à faire, et je ne vois pas sur quelle base. Enfin, le président n'a pas commis de faute majeure. Et parce que chacun a son agenda.
Mmh.
Donc,
on est déjà dans 2027, là, finalement.
On est avant 2027. Mmh. Mmh. Bon, il y a des élections municipales, mais là, qui n'ont pas l'air d'intéresser particulièrement. Il y aura du règlement de compte dans certaines communes, entre des forces de gauche, apparemment, qui sont prêtes à se battre. Nous, on porte des candidats dans des listes les plus ouvertes et les plus larges possibles. On pourra parler des municipales. Mais le Rassemblement national, il souhaite... Alors là, il était très silencieux depuis un moment. Et puis on ne sait pas pourquoi Marine Le Pen a eu un procès qui ne lui a pas été très favorable. Et donc maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale avec de nouvelles élections, en espérant être majoritaire ou le plus près possible de la majorité absolue. Et puis pouvoir voter une loi qui permette à Mme Le Pen de se présenter en 2027. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible.
Une forme d'amnistie, finalement.
Ouais, quelque chose qui lui permette d'y aller. Elle a déjà contesté les attendus de les minutes du procès. Elle a eu un comportement vis-à-vis des juges et vis-à-vis de la justice pour un parti qui disait que la justice n'est pas assez sévère. Quand la justice s'applique au Rassemblement national, elle est trop sévère. Où est la mesure? Et puis de l'autre côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui lui, dissolution, pas dissolution, il attend, il veut être le candidat de 2027.
Il attend son moment, finalement.
Bah écoutez, il a perdu 3 fois, s'il a envie de perdre 4 fois, c'est quelque chose. Mais il attend son moment, il se dit, de toute façon, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance. Donc ces agendas politiques-là ne collent pas du tout avec l'urgence d'avoir un projet de loi de finances et une loi de finances qui soit votée avant le 31 décembre, parce que plein de choses dépendent de la loi de finances. Sinon, on repart avec le même budget qu'en 2025. Et dans un monde qui bouge sans arrêt, bah si on ne bouge pas nos lignes financières, si on ne bouge pas nos lignes budgétaires sur les recettes ou sur les dépenses de l'État, on n'avance pas, on va reculer. On perd du temps et on perd beaucoup d'argent.
Vous comprenez que le président de la République ne se soit pas exprimé, n'est pas parlé aux Français, ça a été assez mal perçu, assez mal vécu.
Je pense que dans l'instantanéité, il ne souhaite pas le faire. Il a parlé très franchement aux Français en 2024, le soir des élections européennes, qui ne nous avaient pas été favorables. Et il a annoncé qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une clarification. Le résultat des élections législatives n'a pas clarifié le paysage, bien au contraire.
C'était une erreur politique,
selon vous ? Non, je ne pense pas qu'il faille rentrer dans le fait que c'était bien, c'était mal, c'était une erreur. De toute façon, à l'automne 2024, on se serait retrouvé dans la même période qu'aujourd'hui, avec un projet de loi de finances à faire passer, et tout laissait penser que nous aurions été mis en minorité à l'Assemblée nationale au moment de ce loi. Donc il y aurait eu, de toute façon, une difficulté majeure et très certainement peut-être une dissolution à l'automne. Le président a choisi de dissoudre le début juillet 2024. Bon, on voit que c'est compliqué. On a eu 3 premiers ministres. On en a un troisième qui fait bis. Sébastien Lecornu, donc je salue la valeur, l'engagement, le sens de l'État, l'interview qu'il a donnée sur France 2 dimanche dernier, je crois, dimanche soir, a montré que c'était un homme d'État. Et on en aurait besoin de beaucoup plus en ce moment. Il a appelé au consensus, à la discussion, quand dans tous les autres partis politiques, on ne martèle qu'une chose, ces lignes rouges. Et dire dans un pays qui est bloqué, dans un Parlement qui est bloqué avec 3 forces en puissance, la seule manière de s'en sortir, c'est d'être responsable, et donc d'arriver à des consensus. Et quand on veut faire des consensus, on ne commence pas par des lignes rouges.
Ça va être difficile la tâche pour Sébastien Lecornu, donc, qui va présenter son discours de politique générale tout à l'heure à 15h. Oui. On parle déjà de censure, de Rassemblement National et de LFI.
Oui, alors eux, ils censurent avant de savoir. C'est devenu la République de la censure. Parce que leur agenda politique, c'est ça, c'est de faire tomber les gouvernements successifs, c'est d'arriver pour Marine Le Pen à des élections législatives anticipées, et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de se poser face à cela en sauveur, et d'attendre son tour, son 4e tour en 2027. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas responsable, ça n'est pas raisonnable.
Avec, là aussi, une inconnue, le Parti Socialiste, comment va-t-il se positionner, puisqu'il y a eu des concessions de fait? Là encore, vous parliez de ligne rouge à l'instant, Éric Laurent. Il y a une ligne rouge, c'est cette fameuse réforme des retraites. Alors, on a entendu des voix ces derniers jours qui ont demandé de geler la réforme des retraites.
Oui, de la suspendre, de la bloquer un moment. Alors, tout sera dans le mot, hein, je pense. Mais il faut faire un pas. Face à des partis politiques qui refusent de faire un pas, il est possible que, Sébastien Lecornu l'avait évoqué, on soit à même de faire un pas, puisque ça cristallise depuis le vote, enfin le non-vote, mais c'était quand même un vote, le 49-3. Il y a eu une motion de censure derrière, le gouvernement d'Elisabeth Borne sur la loi sur les retraites n'est pas tombée. Donc le 49-3, c'est démocratique, c'est l'application d'un alinéa de la Constitution. Tous ceux qui ont crié au scandale démocratique induisent les Français en erreur. La Constitution, elle a été prévue. Donc, elle a prévu des cas de blocage et elle a prévu l'article 49, alinéa 3. Sébastien Lecornu a dit qu'il n'utiliserait pas l'article 49, alinéa 3 pour faire en sorte que ce soit le Parlement qui puisse décider, voter, renvoyer vers le Parlement et vers l'objet premier de notre démocratie, qui est la démocratie parlementaire. Mmh. Donc, il y a un pas qui est fait, mais quand je parlais de ligne rouge, quand on écoute les partis politiques, si on ne suspend pas, si on ne l'arrête pas, c'est notre ligne rouge, c'est notre ligne rouge, c'est notre ligne rouge.
C'est plus facile, selon vous, de discuter avec les socialistes ou avec LR que de discuter, par exemple, avec LFI ou avec le RN ?
Alors, des discussions avec LFI et le RN, je veux dire, nous, Renaissance, nous ne sommes pas pour. Voilà, c'est très clair. Mmh. Bon, je pense qu'ils ont, je l'ai dit déjà par deux fois, ils ont leur agenda politique. Le RN, qui était très calme depuis des mois et des mois à l'Assemblée, s'est emballé d'un coup sur ces derniers temps, parce que l'agenda bouscule, parce que Mme Le Pen, au printemps prochain, aura son procès en appel, et qu'elle voit que le chemin est serré. Quant à LFI, je veux dire, avant 2022 déjà dans le premier quinquennat, mais depuis 2022, c'est le chaos organisé, puisque Jean-Luc Mélenchon a théorisé le chaos. Je pourrais être un peu plus cru en disant cela autrement, mais mettons le brin partout. Mmh. Voilà. Soufflons le chaos, soufflons sur les flammes, faisons tout pour que la France soit complètement bousculée, que nos concitoyens ne comprennent plus et qu'ils essayent de se poser en sauveur. Non, par contre, discuter avec les partis que j'appelle de gouvernement, que nous appelons de gouvernement, soit le Parti Socialiste, les Républicains, mais aussi le Parti Communiste. Et puis il y a un groupe parlementaire aussi à l'Assemblée nationale qui s'appelle LIOT, qui est un groupe composé des indépendants, qui est un groupe d'une vingtaine de députés qui font des propositions.
Qui n'ont pas pris d'ailleurs de décision s'ils sanctionneraient ou pas le gouvernement.
Vous savez, une censure au Parlement, c'est 289 voix minimum. Mmh. Hein, c'est la majorité absolue au Parlement, 577 députés. À ce jour, LFI, le Rassemblement national, les écologistes, on peut y ajouter, je pense, les communistes voteront la censure. Maintenant, que vont faire les Républicains et que vont faire les députés du Parti Socialiste ? Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun.
Il y a une division chez les Républicains.
Ah, complète. D'ailleurs, Bruno Retailleau en a un peu fait les frais. Il a allumé le pétard et puis ça s'est retourné contre lui. Chez les socialistes, ils sont aussi très partagés. Mais moi, j'en appelle à leur responsabilité. Aujourd'hui, ils n'ont pas envie particulièrement qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale et qu'il y ait une nouvelle élection législative. Si on veut que la France avance, si on veut apaiser la France, si on veut rassurer nos concitoyens et se projeter dans l'avenir alors que le monde à côté de nous déroule et avance très vite, je pense qu'il faut trouver une forme d'accord avec un gouvernement tel qu'il a été proposé, le gouvernement Le Cornu II, quelque chose... c'est un gouvernement où les majors politiques ont disparu. Mmh. Voilà, il n'y a pas de concurrent pour faire campagne pour 2027.
C'est plutôt un gouvernement technique. Hein,
c'est plutôt, il y a quelques poids lourds. Hein. Je note la présence de Gérald Darmanin, mais qui a dit que son choix n'était pas... Enfin, il ne se tournait pas vers 2027. Donc il a un boulot ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il a déjà fait du très bon boulot dans la période où il a occupé ses fonctions. C'est quelqu'un de grande confiance, de sérieux. Et je pense que dans un gouvernement, c'est un poids lourd qui peut apporter dans l'action. Mais il y a un certain nombre de ministres aujourd'hui qui sont... je pense à Ferrandou qui vient de la SNCF, qui est quand même un habile négociateur à la SNCF.
Qui est déjà pointé du doigt. Ça va être compliqué.
Alors moi, je voudrais saluer quand même note aussi positive. Je trouve que ce gouvernement, je l'ai écrit, il a de la gueule quelque part parce que on a des personnalités compétentes et qui ne sont pas en route pour 2027. Mais je voudrais saluer la présence de trois Bretonnes ce gouvernement. Anne Le Hénanff, Marie-Pierre Védrenne et Françoise Gatel, qui était déjà du précédent gouvernement, sur la décentralisation. Il y a une volonté affirmée par le Premier ministre de regarder de près l'organisation territoriale des collectivités. Parce qu'il y a un diagnostic qui est posé depuis longtemps, c'est que pour certains projets, il y a quatre niveaux de collectivités qui s'en occupent. Donc à chaque fois, le dossier il passe de l'un à l'autre, il revient, il circule. Et donc quand vous avez un projet, ça ne fait qu'allonger le temps, ça ne fait qu'allonger la prise de décision, et ça coûte à tous les étages. Donc Peut-être qu'à un moment, il faut simplifier le millefeuille administratif, et c'est aussi une des parties de la mission de Françoise Gatel de proposer un certain nombre de choses. Il y a de nombreux élus qui appellent à de la simplification, mais la simplification...
Il y a une grande attente.
Mais on dit que tout est complexe en France, tout est compliqué. Quand on veut porter un projet, de toute façon, vous mettez 6 ans en France, là où ils mettent 2 ans en Chine. Et en deux ans, c'est...
Ça pose la question aussi de compétitivité.
Ça pose la question de la compétitivité et ça pose la question des nombreux appels, surappels, de la judiciarisation des processus. Et quand ça ne marche pas d'une manière, on a déposé une requête, on en repose une autre à la fin de la première procédure parce que ça n'a pas marché, on retourne sur une autre procédure. Il faut simplifier, on a besoin de simplifier, on a besoin de simplification, que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans le monde du développement économique. On a besoin de gagner du temps, d'aller plus vite. Et donc d'avoir une meilleure productivité quelque part pour faire concurrence à ceux qui ne nous attendent pas.
Avec aussi la question, là encore, ça nous ramène au budget, au déficit de la France. Il faut bien reconnaître, la situation économique de la France n'est pas reluisante. Il faut continuer à faire des économies, mais il faut rester quand même compétitif. Comment résoudre l'équation ?
Hier, on a un Français qui a été... désigné prix Nobel d'économie, Philippe Agion, oui, c'est ça. Son credo, c'est la croissance par l'innovation. Alors, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir porté ce sujet depuis 2017, c'est-à-dire favoriser le développement économique, favoriser l'entrepreneuriat, favoriser l'innovation. France 2030, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Vous avez la Banque publique d'investissement qui accompagne. On a des licornes françaises. Mistral AI, la plus récente, on pourra en reparler avec l'attaque Zuckman qui lui planait au-dessus.
Mais j'allais y arriver à cette fameuse
table. Je termine et je prends le point. Mais l'innovation, la compétitivité, regardez aux États-Unis, regardez en Chine. C'est innovation sur innovation. Et c'est l'innovation qui amène du développement, qui amène de l'emploi. Et de l'emploi, ça amène des cotisations sociales, ça remet des gens au travail. Donc c'est bien pour notre productivité et puis ça permettrait aussi de faire des choix budgétaires moins serrés et de désendetter la France. Les 3400 milliards, il va falloir quand même attaquer un jour la butte de désendettement. Voilà. Alors, vous vouliez parler de taxer plus, par exemple. Non,
oui,
c'était
voilà,
ça.
En
parce
cas,
que j'ai dit Zuckman.
Voilà, alors vous avez dit Zuckman, c'est un petit peu le mot générique, le nom générique aujourd'hui.
On est passé par une espèce d'affolement médiatique en disant « ça y est, la France est sauvée ». On a Gabriel Zuckman, il a inventé un truc à 2%, on va taxer tous les riches à 2%. Les plus grandes fortunes, on va taxer à 2%. Mais on taxe quoi ? Le capital personnel ? Le capital industriel ? C'est pas du tout la même chose. Et l'exemple de Mistral AI était formidable. On a là une licorne française en intelligence artificielle qui est valorisée à 12 milliards d'euros. Alors, à gauche, tout de suite, quand ils voient 1 milliard, ils disent « on va en prendre une partie ». Mais 12 milliards d'euros, c'est la valorisation de l'entreprise aujourd'hui. Mais est-ce que c'est sa valorisation demain ? Est-ce que c'est sa valeur ? Et cette entreprise, elle ne dégage pas de résultats positifs. Elle paye ses salariés, elle verse ce qu'elle doit verser aux uns et aux autres, mais elle a un résultat qui est à zéro. Mmh. Donc ça veut dire que si on taxe Mistral AI, admettons que les trois créateurs de Mistral AI détiennent aujourd'hui 20% du capital par les apports successifs qu'il y a eu, le capital s'est dilué. Ça fait près de 50 millions qu'il faudrait payer si on taxe à 2% la part de 12 milliards qui est à eux. Ça fait 50 millions. Mais ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Le président de Mistral AI dit « c'est 50 millions, je ne les ai pas ». Alors je fais quoi ? Ben, je vends mes parts, je vends à l'État, et donc l'État devient successivement propriétaire, et vous allez voir que l'innovation, ça va se terminer.
Donc, le risque aussi de voir de mainmise d'un autre pays, perdre la souveraineté.
Par exemple, oui, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Donc, hier, moi, j'ai écouté Philippe Agion, qui a dit tout le respect qu'il avait pour M. Zuckman, mais qu'il a dit « il se trompe ». Qui a dit « il se trompe ». C'est pas ça qu'il faut taxer. Je pense que les plus grandes fortunes, on peut trouver des solutions. Et moi, je pouvais l'évoquer aussi récemment. Il y a de l'optimisation fiscale qui est faite. Et ça, c'est quelque part la manière d'éviter d'avoir l'impôt pour les plus grandes fortunes. Voilà, il y a un champ à explorer. Nous, à Renaissance, on a des choses que l'on peut proposer, mais en tout cas, la taxe Zucman, c'est vraiment la fausse bonne idée, et d'ailleurs, les médias n'en parlent plus. Et c'est une bonne chose.
Voilà, l'actualité a repris ses marques, comme l'on dit. Je reviens au président de la République, il est beaucoup attaqué actuellement.
Fait un certain temps.
Oui, déjà. Mais là, en ce moment, tout le monde se tourne vers lui. Si demain, allez, on va faire un peu de politique fiction, le président de la République jette l'éponge en disant « voilà, je suis fatigué, on m'attaque, je pars qu'est-ce qui pourrait se passer ? On arrive au chaos, ce serait une forme de rupture, ce serait aussi une crise plus qu'institutionnelle, une crise de régime.
Moi, je suis catégorique, il ne partira pas. Il l'a dit de nombreuses fois, je gouvernerai, je serai en fonction jusqu'à la dernière minute. Il a été élu une première fois, il a été réélu en 2022, il ira jusqu'à mai 2027. Alors, il est attaqué de toutes parts, bien sûr. Ça fait longtemps, je crois que c'est pas uniquement ces dernières années. Même dans le premier mandat, il y avait déjà des attaques qui étaient assez virulentes. C'est un homme d'État, il a une grande stature, il a une place en politique internationale qui est respectée. Il parle au plus grand, il parle anglais, courant. Et il fait pas d'erreur comme Marine Tondelier avec la déportation.
Ouais. C'est important, c'est... les mots, le choix des
mots. Le choix des mots est important. Quand on dit « non, c'est la traduction de ça, de tout déporte », non, c'est pas la traduction. Je crois qu'il a une aisance verbale avec les grands dirigeants, il a un lien avec les grands dirigeants mondiaux. Il n'a de cesse, depuis 2022, de soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et de soutenir l'Ukraine. Je crois qu'on a la chance d'avoir un président comme ça. Donc on peut lui reprocher un certain nombre de choses, on peut lui reprocher d'avoir décidé des choses. Dans un bilan, il y a toujours des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Bon, en France, on a la mémoire courte, puisqu'on vit dans la punchline et dans la télé toute info qui resserre toute la journée la même sauce pour certains. On a oublié, je pense, que la suppression de la taxe d'habitation, tous les Français qui la payaient ne la payent plus aujourd'hui. La redevance TV qui était quasiment... une taxe dans tous les foyers, elle n'existe plus. La prime d'activité, elle a été augmentée sous les gouvernements successifs. On a créé 2 millions d'emplois. Le taux de chômage est passé de 9,5 à 7,3 en 2024, quelque chose comme ça. On a triplé le nombre d'apprentis, donc des gens mieux formés, des gens qui sont aussi salariés quand on apprend. Et si on avait pu connaître à notre époque... cette chance de l'apprentissage, c'est-à-dire d'avoir un pied dans l'école et un pied dans l'entreprise. Moi, j'ai été tuteur d'apprentis, je trouve que c'est merveilleux. Mmh. Quoi.
Ils apprennent.
On transmet, et donc quand ils rentrent définitivement dans l'entreprise, ils sont armés, ils sont opérationnels. Donc on a des salariés immédiatement opérationnels. Voilà, et la liste est longue. À côté de ça, il y a des choses qui n'ont pas été réussies. Gabriel Attal a présenté à Arras la vision qu'on avait, nous, à Renaissance, d'une nouvelle République. Alors il ne s'agit pas de la 6e République de Jean-Luc Mélenchon, mais d'une nouvelle République où le travail paye mieux, où notre société va mieux, c'est-à-dire qu'une société où on respecte aujourd'hui, où on fait mieux pour nos enfants en maîtrisant les réseaux sociaux, quand on voit les drames successifs qu'il y a, y compris chez les plus jeunes avec les réseaux sociaux par le harcèlement. Voilà, on a un certain nombre de propositions. Donc voilà, je disais, le président n'a peut-être pas tout réussi. Si on revient juste sur les retraites, ça reste un cap qui a été difficile. Nous, à Renaissance, Gabriel Attal propose de revenir sur ce sujet et de remettre sur la table la retraite à points. Retraite à points, c'était quelque chose de très juste et c'est la même chose pour tout le monde.
Il nous reste trois petites minutes, ça va être très rapide, il y a encore beaucoup de sujets, mais vous allez revenir au micro de la matinale, Éric Laurent. Je voulais vous entendre quand même sur le fait qu'on a entendu Gabriel Attal, justement, qui a eu des mots assez durs vis-à-vis du président. On a entendu aussi un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui-même a osé parler de démission.
Moi, je vais dire que on peut se priver des petites phrases. Privons-nous des petites phrases. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Les enjeux, j'en ai donné quelques-uns. Il y a toujours la guerre en Ukraine. Il y a une économie qui est difficile. On a une concurrence exacerbée avec les États-Unis, avec le système de taxation mis en place par Trump. Les Chinois Ils n'attendent pas qu'on fasse quelque chose. Eux, ils le font. Donc, soutien au président de la République, moi, je l'affirme. Et je l'affirme au nom de tous les adhérents de Renaissance aux Côtes d'Armor. Nous sommes des fidèles du président de la République. Oui, bien sûr, nous sommes conscients que certaines choses ont été bien faites et d'autres ne sont pas allées au bout ou n'ont pas été satisfaisantes. Mais il a apporté une nouvelle idée de la politique et je soutiens le président de la République.
C'est là-dessus que l'on va conclure. Éric Laurent, président de Renaissance Côte d'Armor, vous reviendrez, je voulais vous entendre aussi sur la paix qui arrive oui. difficilement à Gaza et en Israël.
Ouais, c'est ce petit mot, la libération des 20 otages hier, c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est la fin d'une horreur pour ces 20 personnes. Nombreux sont, parmi les otages sont morts et on imagine les conditions horribles dans lesquelles ils ont dû être torturés et dans lesquelles ils sont morts. Et je voulais dire aussi qu'hier, c'était le 13 octobre, et que ça fait 2 ans qu'on a assassiné un soldat de la République, un enseignant, à Arras. Donc, voilà.
Dominique Bernard.
Dominique Bernard, voilà. C'est quand même des marques fortes, des choses fortes de notre société. Le vivre ensemble, c'est essentiel. Mais souhaitons la paix en Europe, souhaitons la paix au Moyen-Orient. Et puis déjà, les choses iraient beaucoup mieux.
Éric Laurent, président de Renaissance Côte d'Armor, était avec nous ce matin en direct dans la matinale de Bretagne 5. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.